Donc, pour terminer, on a encore une dernière page pour terminer la difficulté ou le piège du compromis. Tout simplement, c'est une dernière page pour avoir ce petit rappel tout simple. Après tout ce qu'on a vu, tous les dangers, toutes les difficultés que cela amène, toutes les raisons de pourquoi il nous est facile de dire oui au compromis, pourquoi on a tort de le faire à chaque fois. Parfois, on peut être, justement, comme on disait, submergé en disant que j'ai pas le choix. Il faut absolument que j'accepte le compromis. Sinon, ça va, ceci, cela. Ben non. Peu importe le scénario, peu importe la situation, il nous est possible de dire non au compromis.
C'est quoi le compromis, Philippe?
Le compromis, c'est quand, pour dans notre cadre, c'est quand nous savons ce que Dieu nous veut qu'on fasse, une loi qu'il nous donne dans sa parole, et que le monde ou les autres
C'est
veulent
dire
qu'on fasse
rigoureusement?
autrement. Non, ça veut dire qu'on doit faire, on doit, là où Dieu nous dit qu'on ne doit pas, nous on dit oui.
Oui.
Parce
C'est
qu'on veut,
mitigé.
voilà, un peu mitigé.
Bah, oui ou non?
C'est pas,
Oui, non, ouais.
c'est ni oui
Oui,
ni non.
ah, d'accord, ouais.
Et alors que Dieu dit, il faut que notre oui soit oui ou que notre non soit non, il veut pas entre les deux. Le compromis, c'est un entre les deux. Et Dieu dit non, pas cela. Alors, c'est. Et donc, Dieu nous dit, si moi je veux que vous disiez non au compromis, c'est que c'est possible. C'est, il y a une capacité, il y a, vous, on a la capacité de dire non. Et on peut. Quand on comprend cela et qu'on veut faire cela, ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour changer un peu les circonstances. La première, c'est comme dans toutes les mines qu'on voit, on en revient toujours à la prière. De prier au Seigneur, mais dans ce cas-ci, spécifiquement de prier au Seigneur de renouveler notre amour pour lui. Alors, on a dit, là, Dieu est clair sur ce que lui déclare dans la parole de Dieu, ce que lui veut qu'on fasse. On est tenté, on est poussé à faire autre chose au lieu de chercher un compromis où on peut faire pas exactement ce que Dieu demande pour également satisfaire les autres. Bah, Dieu dit non. Il faut que notre amour pour lui soit plus grand que notre amour pour les autres et même plus grand que notre amour pour nous-mêmes. Donc, si on prend le temps de prier, dit Seigneur, augmente, aide-moi à même renouveler l'amour que j'ai pour toi pour qu'il ne soit pas juste un amour en parole, en chant ou superficiel, mais qu'il soit sincère, qu'il soit réel. Et en même temps, alors qu'on prie à ce que le Seigneur renouvelle notre amour pour lui, on peut demander à ce que Dieu renouvelle notre amour pour sa parole. On apprend qui il est à travers sa parole, et le plus qu'on apprend qui il est, le plus que ça devrait nous pousser à l'aimer de toute façon. On a besoin de la parole de Dieu, pas simplement pour grandir en connaissance. Je sais que les Français sont très poussés vers avoir une grosse connaissance, mais la parole de Dieu nous a jamais été donnée juste pour la connaissance seule. Elle nous est donnée pour être instruits, pour être mis en pratique. Et donc on a besoin de la parole de Dieu, pas simplement pour grandir en connaissance, ni simplement pour grandir en sagesse seule, mais pour grandir en maturité, pour grandir dans notre force, pas notre force à nous, mais la force qui nous vient de ce que Dieu nous enseigne. La Bible sera notre guide spirituel. Donc quand on veut faire ce premier pas, quand on veut absolument pouvoir avoir la force de dire non au compromis, ben, il n'y a pas de mal, même quand le compromis n'est pas là, que tout va bien, qu'on continue à prier, Seigneur, renouvelle mon amour pour toi. Aide-moi à ce que mon amour pour toi soit plus fort que tout, plus fort que mon amour pour les autres, plus fort que mes émotions, plus fort que mon amour pour moi. Et en même temps, Seigneur, renouvelle mon amour pour ta parole. Et ça, c'est le premier pas. Ensuite, on peut continuer dans la prière. Et la deuxième chose, c'est demander à Dieu, dans nos prières, de restaurer notre foi en lui. C'est bien trop souvent quand un chrétien tombe dans le péché. Il croit qu'il doit faire quelque chose pour prouver sa sincérité à Dieu et de retrouver ainsi ses ferveurs, sa faveur. Dire, ils admettent, ils reconnaissent qu'ils ont désobéi, ils ont enfreint sa loi, et ils demandent pardon, et surtout si c'est pour quelque chose qu'ils refont et refont et refont et refont, dit, mais ça fait maintes fois que j'ai demandé pardon, est-ce que Dieu va vraiment croire que je suis sincère? Alors, pour prouver que je suis sincère, il faut que je fasse quelque chose. Alors que ce qu'on doit faire, c'est placer notre foi en lui. Que quand Dieu dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner, qu'on le croit. Et que on dise, Seigneur, tu vois mon cœur, l'homme regarde à ce qui plaît aux yeux, mais tu vois le cœur de l'homme, tu vois si je suis sincère ou non. Tu vois que je suis vraiment désolé. Et ça suffit. Donc de demander à Dieu dans nos prières de restaurer notre foi en lui, de qui il est, et de qu'il ne ment pas, qu'il dit la vérité. Et Dieu ne change pas, il est immuable. Il ne demande pas ce qu'on confesse notre péché et place notre foi en lui et d'également faire des œuvres pour le prouver. Les œuvres, à chaque fois qu'il nous en parle, c'est pour prouver notre amour pour lui. Et c'est par amour pour lui et non pour acquérir le pardon de lui. Donc après avoir placé notre foi en lui, Dieu pourra nous montrer ce qu'il veut qu'on fasse. Mais c'est la foi d'abord. Le Seigneur, renouvelle, restaure ma foi en toi et ensuite montre-moi ce que tu veux que je fasse pour devant cette situation, pour pouvoir dire non au compromis et rester fidèle à ton enseignement, fidèle à ta parole. Et la dernière chose, c'est de prendre position, d'être ferme dans notre résolution, avec l'aide de Dieu, bien entendu, de toujours être soumis et sensible à la voix de Dieu ainsi qu'à sa volonté. Dieu est constamment, il faut réaliser, Dieu est constamment en train de nous parler. Si nous ne l'entendons pas, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'on ne fait pas assez attention. On est distrait par maintes et une chose. C'est à nous, comme la Bible dit, comme la brebis, de reconnaître sa voix. C'est à nous d'être à l'écoute. C'est à nous de ne pas nous laisser distraire. Ce n'est pas à Dieu de faire comme nous faisons en tant que parents qui essayons d'avoir l'attention de son enfant ou s'il ne nous entend pas après une, deux, trois fois qu'on l'appelle, ben, à chaque fois on l'appelle plus fort. Dieu ne va pas parler nécessairement plus fort. Il va continuer à être ce murmure, ce moindre bruit, pour ainsi dire, parce qu'il s'attend à ce que ce soit nous qui arrêtions de parler, que ce soit nous qui arrêtions de faire du bruit, que c'est nous qui arrêtions de nous laisser distraire par maintes et une chose et de prêter attention pour écouter sa voix. La brebis reconnaît la voix de son berger. Et alors que Dieu vous aide à vaincre le compromis, qu'importe le domaine, Dieu vous donnera un cœur tendre également envers sa parole et ses vérités. Dieu vous aidera à retrouver une joie et une paix que vous aviez perdue, peut-être même oubliée. Nous n'avons aucune excuse de laisser ce monde, ni notre chair, nous empêcher de placer notre foi en Dieu. On n'a aucune excuse de laisser ce monde, ni notre chair, d'avoir un amour pour Dieu qui soit plus grand, plus important que quoi que ce soit d'autre. Que mon désir suprême, c'est de plaire à Dieu par-dessus tout. Galates chapitre 1, verset 10 nous dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 1 Jean 3, 17 et 18, si quelqu'un possède les biens du monde, autrement dit, si quelqu'un était riche, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, autrement dit, il est radin, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et ceci, d'autant plus quand il s'agit d'obéir à Dieu. Il est facile pour n'importe qui de dire qu'il aime Dieu. Il dit, ben, montre plus qu'avec la langue, que ce soit en action, en vérité. Quand le compromis est là, d'être résolu dans votre position, dire non, je ne peux pas faire moins que ce que Dieu demande de moi parce que je l'aime par-dessus tout. Nous voyons Christ, quand on parle des compromis, certains ont une mauvaise conception aussi, disant qu'ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit avec le monde. C'est pas ça. Nous voyons Christ manger avec les publicains et autres. On a le témoignage de ce que Christ mangeait avec ce que les autres considéraient les gens de mauvaise vie. Hein, mais nous, donc on le voit se mêler à eux, mais sans jamais de compromis. Nous ne voyons jamais Christ vivre comme eux. Et nous ne voyons jamais Christ non plus dire qu'ils avaient raison de vivre comme cela. Mais en 1 Pierre 4, 2, il dit « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Donc, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. On vivait comme ça avant, mais plus maintenant. Éphésiens 4, 17, « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon les vanités de leurs pensées. » Donc, il y a une différence entre vivre dans ce monde, de vivre comme ce monde, et de ne pas pouvoir vivre dans ce monde sans compromis, mais de ne pas être séparé de ce monde au point où on n'a pas de témoignage dans ce monde non plus. Donc, on pourrait continuer comme n'importe quel chapitre qu'on voit dans cette étude. Chaque chapitre pourrait être une étude complète en elle-même, en lui-même, mais on n'a pas le temps de faire cela. On fait un petit survol, pour ainsi dire, pour pouvoir voir le plus de choses possibles. On va quand même commencer, parce que ça fait plusieurs semaines que je promets qu'on va le faire. On va commencer le chapitre sur les mines du pardon, et plus précisément le refus de pardonner. Donc, on ne va pas prendre notre temps à parler de pourquoi, même l'inconverti comprend que quand on a tort, qu'il est normal de demander pardon. Ils enseignent, ben, du moins dans le temps, avant cette époque bizarre dans laquelle on vit, même les inconvertis enseignaient à leurs enfants le fait qu'il fallait, quand ils ont fait du tort à quelqu'un, ben, ils disent, mais qu'est-ce que tu dis? Un pardon. Et ça allait avec la même chose que quand quelqu'un leur donnait quelque chose, on disait, qu'est-ce que tu dis? Ben, merci. Et c'est des choses qui se perdent malheureusement de nos jours. Les mines du pardon, ou le danger du refus de pardonner. Donc, c'est quand on nous a fait du tort et qu'on refuse de pardonner l'autre personne. On va voir cela un peu en détail. Mais pour introduction, j'aimerais qu'on lise le psaume 103. Et je vais demander à Suzanne et Joshua de m'aider dans la lecture de ce chapitre. J'aimerais qu'on lise le chapitre entier. Et est-ce qu'on peut lire 5 versets chacun? Bon, Suzanne, tu commences, et ensuite Joshua, puis moi, et on continuera jusqu'à ce qu'on ait lu les 22 versets.
C'est David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu'un vent passe sur elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissante en force et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel.
Il y a énormément, rien que dans ce seul chapitre du psaume 103, il y a beaucoup de versets, rien que dans ce psaume qui parle du pardon que Dieu nous offre. Et combien nous sommes heureux de cela. Et on en reviendra de cet aspect du fait combien on doit tellement au pardon que Dieu nous donne. Et verset 3, par exemple, nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ». Heureusement qu'il y a ce mot « toutes ». Il ne met pas d'exception, il ne met pas de limite. Et il les pardonne. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie des biens dans ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Pourquoi ? À cause du verset 8. Parce que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Heureusement qu'il ne se conteste pas. Il ne garde pas sa colère à toujours. Même si nous, on veut continuer à contester, lui refuse. Heureusement, le verset 10 me touche à chaque fois. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Autrement dit, il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et ensuite, il parle encore, versets 11 et 12, à quel point il, pas seulement est-ce qu'il pardonne, mais qu'il les jette loin de lui, aussi loin de l'Occident et de l'Orient, autrement dit, il les oublie. Il ne les garde pas pour nous les rappeler, pour nous faire sentir coupables, pardonner. Dieu pardonne et Dieu oublie. Il ne nous rend plus coupables, il ne nous culpabilise plus pour les péchés confessés. Bon, ça c'est juste pour, en guise d'introduction, pour cette mine du refus de pardonner. L'acte de pardonner ou d'être pardonné, quelque chose qui est universel, qui existe chez toute personne depuis le tout début des temps. Personne n'y échappe. Et ceux qui veulent ignorer le pardon, faire comme si tout va bien, alors que ce n'est pas vrai, ne font qu'empirer la situation. Que vous avez, ou que vous ayez besoin de pardonner, ou que vous ayez besoin d'être pardonné, ignorer le problème en espérant que ça partira tout seul, ou que ça partira avec le temps, c'est de se mentir à soi-même. Le pire, c'est qu'on le sait, toute personne le sait, mais ils le font quand même, et on le fait quand même. Le fait est, quand le pardon n'est pas donné, un vide va se créer. Aussi bien chez la personne qui a besoin de pardonner que la personne qui a besoin d'être pardonnée. Si on fait l'autruche, on espère, comme on a dit, que le temps va se charger de la situation, donc on n'a pas besoin d'en parler, ça ne fait que agrandir ce vide. Et avec le temps, ce vide va également créer de l'amertume. Et avec le temps, ça va créer un sentiment de solitude et un sentiment d'isolement. Après tout, si j'ai besoin de pardonner quelqu'un, c'est que cette personne m'a fait du tort. On ne pardonne pas quelqu'un qui nous a fait du bien. Peu importe si c'était verbal, ça peut être un tort physique ou un tort émotionnel. Le fait est, j'ai été blessé. Mes émotions et mes pensées naturelles sont de se défendre. C'est une réaction humaine. Et selon le caractère de la personne, il y a des personnes qui se défendent en contre-attaquant, il y en a qui se défendent en courant loin. Mais beaucoup veulent, moi, ma défense, c'est d'attaquer l'autre et de blesser l'autre. Et le monde et notre propre chair nous poussera souvent à rendre l'appareil au lieu de pardonner. On m'a fait du tort à moi. Comment ? Pourquoi ? C'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas. Il n'avait pas le droit de me faire ça et on veut rendre l'appareil. Et si on le fait, les conséquences peuvent être explosives. D'ailleurs, certaines personnes se laissent aller au sentiment de revanche parce qu'ils aiment cette poursuite de revanche et refusent tout compromis. pour revenir à l'arrière. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Généralement, faire du mal envers l'autre, comme ils ont eu mal eux. On voit cette attitude souvent, rien qu'en conduisant la voiture. Quoi, quelqu'un m'a fait une queue de poisson? Ben attends, j'accélère, je vais en faire une moi aussi. On veut rendre l'appareil. Quoi? Il a freiné brusquement devant moi? Ou il n'a pas... Il n'avait pas de priorité à droite, mais il l'a prise quand même. Comment ose-t-il? Alors, je vais lui rendre l'appareil. Ben, je ne peux pas faire exactement pareil. Ben, je vais lui coller au train, ou je vais klaxonner, je vais le doubler, et rester à sa hauteur et faire des signes et gestes de la main. Alors, on va faire ce qu'on peut pour lui démontrer comment a-t-il osé me faire quelque chose que je n'ai pas aimé. Je vais lui rendre l'appareil. Et même dans une situation aussi bête, on peut répondre aux questions. Est-ce que quelqu'un lui a fait du tort? Oui. Faire une queue de poisson, par exemple, ce n'est pas dans le code de la route des choses qu'on doit faire. Donc on m'a fait du tort. Est-ce que la personne qui a fait la queue de poisson ou autre chose avait tort? Oui, parce qu'ils n'ont pas obéi au code de la route. Est-ce que j'ai la possibilité de ne pas laisser ce tort m'affecter au point où je rende l'appareil? Oui, je ne suis pas obligé. Ce n'est pas que je suis sans solution autre que de lui rendre l'appareil. J'ai la possibilité de ne pas laisser ce tort m'affecter. Est-ce que l'autre personne a demandé pardon? Ben non, ils sont dans l'autre voiture, ils sont en train de conduire. Est-ce que je peux pardonner quand même? Absolument. Je n'ai pas besoin que l'autre personne s'arrête, qu'il revienne à ma voiture pour dire « Écoute, je suis désolé, j'ai eu tort. Ah ben dans ce cas-là, je te pardonne. » On peut choisir d'ores et déjà, tout de suite, dire « C'est pas grave, je pardonne. » Et on continue notre chemin, pas besoin d'essayer de rendre l'appareil, etc., etc. Et beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. On ne peut pas pardonner aux personnes qui n'ont pas demandé pardon. Ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Et on en reviendra tout à l'heure, ou une autre fois plutôt. Christ a bien dit sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce qu'il a eu tort parce qu'ils n'ont pas demandé pardon? Non. Il a demandé spécifiquement à ce que le Seigneur leur pardonne, alors qu'ils n'ont rien demandé du tout. Pourtant, un grand nombre d'accidents graves, voire même très graves, auraient pu être évités si seulement les gens n'étaient pas penchés, si exigeants, à vouloir rendre l'appareil, de prendre revanche. Pour notre exemple de personnes qui roulent en voiture, nous avons un exemple sur une réaction immédiate. On roule en voiture, puis voilà, c'est fait, et je réagis. Mais le pardon et le refus de pardonner est quelque chose qui, généralement, que le temps ne guérit pas. Et au contraire, avec le temps, on repense à l'événement, on se refait le scénario. Parfois, on pense à ce qu'on aurait aimé faire, mais pour beaucoup, ils pensent surtout à ce qu'ils aimeraient pouvoir faire ou dire si la situation se présentait de nouveau aujourd'hui. Généralement, on pensera sur comment on pourrait avoir justice, selon nous. Et le plus qu'on pense à une offense qu'on nous a faite dans le passé, le plus qu'on va se focaliser sur la peine que cette offense nous a faite. Rares sont les personnes qui vont penser à une offense faite dans le passé pour essayer de se mettre à la place de l'autre personne, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela. On va s'arrêter avec cette dernière pensée du fait qu'il faut bien comprendre que quand nous refusons de pardonner, c'est que nous sommes en train de choisir de refuser de guérir. Et on va parler de cela un peu plus la semaine prochaine, Dieu voulant. On est à 24 minutes, on peut s'arrêter.